Il est 19h sur Europe 1.
Bataille remportée par le PSG. Kylian Mbappé reste à Paris. Il renonce à jouer en Espagne où il était très courtisé. Si à Paris on exulte, à Madrid en revanche, c'est la soupe à la grimace.
Elisabeth Borne en campagne pour les législatives. La première ministre est en Normandie où elle était candidate. L'occasion d'aller à la rencontre des Français et des acteurs de terrain avant d'entamer les grands chantiers qui l'attendent.
Moscou poursuit son offensive dans l'est de l'Ukraine. Les forces russes ont ciblé un important dépôt d'armes fourni par l'Occident. Dans le même temps, Joe Biden débloque une aide de 40 milliards de dollars pour Kiev.
Le début demain du tournoi de Roland-Garros dont Europe 1 est radio officielle avant l'entrée en lice des joueurs demain. C'est aujourd'hui la journée des enfants. Nous serons porte d'Auteuil à Paris dans ce journal. La tendance météo, Valérie Darmon.
Très forte chaleur, difficilement supportable sur la moitié sud et notamment en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie avec 37 annoncés à Cahors et à Albi.
Une météo complète en fin de journal. Et comme nous vous le disions à 18h, c'est l'épilogue d'un feuilleton qui anime le milieu du football depuis plusieurs mois, l'avenir de Kylian Mbappé au PSG.
Et la star qui sera libre au 30 juin ne quittera pas la capitale et restera à Paris la saison prochaine. Une annonce qui fait du bruit auprès des supporters à quelques heures du coup d'envoi de la dernière journée du championnat de France de Ligue 1. Arthur Pereira, vous êtes aux abords du Parc des Princes et c'est l'euphorie.
Oui absolument Sophie, tous les supporters ont sorti leur maillot aux couleurs du Paris Saint-Germain. Agrippés aux grilles de protection, les supporters attendent devant l'entrée des joueurs le bus du Paris Saint-Germain qui ne devrait maintenant plus tarder. Et tous ont un seul nom à la bouche, Mbappé. Je suis avec Tim et ses amis. Tim, vous êtes fou de joie après cette annonce. Mbappé a décidé de prolonger.
Bonsoir à tous. Sachez une chose, on est très très fiers d'avoir gardé Mbappé. C'est magnifique ce qui se passe à Paris. Paris a montré qu'on a su faire un braquage. On a braqué l'Espagne. On a braqué Madrid et on a posé une grosse clim à Madrid, voilà. Et on est très très fiers de Paris et Mbappé, il reste à Paris, voilà.
Et vous Gabi, vous n'arrivez pas à le croire maintenant?
Oui, bah, c'est vrai que j'arrive pas à y croire parce que je faisais partie des sceptiques. Jusque à l'annonce aujourd'hui encore, j'y croyais pas. Hein. C'est vrai que je suis encore plus fou de joie que les autres, je pense, aujourd'hui. Et voilà, merci Mbappé, merci le PSG. Et un petit mot aussi pour Di Maria, on va tous fêter son départ ce soir avec lui.
Et maintenant, pour que la fête soit totale, cela doit impérativement se terminer par une victoire. Messieurs, peut-être un petit dernier mot à ajouter ?
Ici c'est Paris.
Ici c'est Paris, les gars.
Paris. Paris.
Bon, vous l'avez compris, ils sont tous fous de joie, ils attendent tous Mbappé.
Merci Arthur Pereira au Parc des Princes pour Europe 1. Et donc ce dernier match de la saison, ce sera PSG Metz à 21h. Bonsoir Jean-François Pérez.
Bonsoir Sophie, bonsoir à tous.
Alors pour reprendre la fameuse formule qui avait fait couler beaucoup d'encre, au moment du transfert de Neymar il y a 5 ans, finalement c'est Keda, il reste.
C'est Keda, il reste exactement, et qui l'eût cru, hein, quand au cœur de l'été dernier, il avait failli s'engager avec le Real Madrid, le PSG avait fermé la porte, le film semblait écrit, Mbappé allait achever son contrat à Paris et filer en Espagne, où le Real d'ailleurs lui déroulait le tapis rouge. Hein. Depuis, les discussions entre l'entourage du joueur et les deux clubs se sont accentuées. Longtemps, on a cru que Mbappé, en effet, allait rejoindre le club de ses rêves de gosse. Le Real était prêt à lui dérouler le tapis rouge, lui offrir des conditions jamais vues. Mais jamais dans cette histoire, le PSG n'a perdu espoir. Le fil des négociations n'a jamais été rompu. Une partie au moins des négociations se sont déroulées à Doha, directement chez l'émir. On parle d'un contrat de 3 ans et de sommes folles qu'on ne peut pas confirmer pour l'instant, mais en tout cas au moins des centaines de millions d'euros. Ce sont des émoluments, j'allais dire, à la hauteur des enjeux qui sont colossaux. La Coupe du Monde au Qatar avec Mbappé bien sûr en tête de gondole, à la fois du PSG et de l'équipe de France. La première Ligue des champions de l'histoire du PSG, de l'histoire du club à conquérir. Le tout avec des pouvoirs qui seront sans doute bien supérieurs à ceux d'un simple joueur. Capitana sans doute pour Mbappé la saison prochaine. Droit de regard notamment sur le recrutement et peut-être même le choix de l'entraîneur. Voilà, Mbappé, superstar, soir de fête, vous l'aurez compris, au PSG.
Merci Jean-François Pérez du service des sports d'Europe 1. En Espagne, en revanche, c'est une autre chanson puisque le président de la Liga a déclaré que Mbappé avec le PSG, cette signature, c'est une insulte au football espagnol.
À la une de l'actualité également, Sophie, le nouveau gouvernement prend peu à peu ses marques.
Au lendemain de l'annonce de sa nouvelle équipe et quelques jours après sa désignation à Matignon, Elisabeth Borne est en campagne pour les législatives. Premier déplacement pour la première ministre qui est aujourd'hui et demain dans le Calvados où elle est candidate, Jacques Soret. Jacques Soret
dans le Calvados qui nous attend. un petit problème de liaison. Bon, en tout cas, le gouvernement qui va s'atteler au gros chantier dans le secteur économique, en tout cas, ils sont nombreux.
Oui, Bruno Le Maire, ce matin, annonçait que la priorité du gouvernement était de protéger les Français contre l'inflation qui s'établissait en avril à près de 5% sur un an. Maud Descamps, on l'a bien compris, le pouvoir d'achat est au cœur des chantiers qui sont à mener.
Oui, le pouvoir d'achat, thème central de la campagne présidentielle. Emmanuel Macron avait promis que l'une des premières mesures qu'il prendrait serait de mettre en place un chèque alimentaire pour aider les ménages les plus modestes. Un projet de loi sur le pouvoir d'achat devrait donc être présenté dans la foulée des élections législatives début juillet. Un texte qui comprendra aussi la prolongation du bouclier tarifaire jusqu'à la fin de l'année ou encore la suppression de la redevance audiovisuelle. Voilà pour les sujets qui seront traités en priorité. Et puis il y a bien évidemment ce dossier majeur et sensible de la réforme des retraites. Elle devait être menée pendant le premier quinquennat, mais la crise Covid est passée par là. Un dossier brûlant qui devrait occuper Elisabeth Borne dès le lendemain du second tour des législatives. Et enfin, autre sujet majeur, celui de la planification énergétique et écologique. Promesse, là aussi, du président Macron avec la relance du nucléaire alors que l'Europe essaie de se détacher des importations de gaz et de pétrole russe. Elisabeth Borne s'appuiera sur deux ministres, Agnès Pannier-Runacher à l'énergie et Amélie de Montchalin à l'écologie.
Maud Descamps du service économique d'Europe 1. Et on a retrouvé Jacques Seret qui est en Normandie pour Europe 1 et qui suit actuellement la première ministre Elisabeth Borne qui est candidate aux législatives.
Oui, c'est avec le costume de candidate qu'Elisabeth Borne arrive à Villers-Bocage.
Bonjour les jeunes.
Bonjour Madame Borne.
Enchantée. Alors, où est-ce qu'on va ?
On va aller voir les commerçants.
Ouais. Tract en main, accompagnée de son suppléant, elle fait la tournée des commerçants.
Ça n'est que nous. On est candidat dans la 6e circonscription avec Freddy Serfin. On n'était pas vraiment venu acheter des chaussures, mais enfin...
Pas aujourd'hui, en tout cas. Voilà,
sinon, il y avait ce qu'il fallait.
Ouais, c'est vrai. Ça va, ça se passe bien aussi
très,
pour
très
vous.
Bien.
Épicerie fine, magasin de vêtements, boulangerie, une heure de déambulation dans une certaine indifférence de la part des habitants. Et les rares qui l'interpellent ne s'adressent pas à la candidate, mais à la nouvelle première ministre, à l'image de cette retraitée inquiète pour son pouvoir d'achat.
On tire la ficelle partout.
Du coup, on a des mesures aussi sur l'indexation des retraites au 1er juillet.
Oui, vous savez que c'est 4%. Excusez-moi, 4%.
Alors, je vais avoir une décision à prendre dans les jours qui viennent sur le sujet.
Mettez du net. Hein.
Mais vous serez tenu au courant.
De la difficulté de faire campagne avec une double casquette, mais Elisabeth Borne ne compte pas ménager sa peine.
L'idée désormais, c'est de venir tous les week-ends ici jusqu'aux élections.
Je vous confirme, absolument.
Tous les week-ends dans sa circonscription, voilà le programme d'Elisabeth Borne donc jusqu'au 19 juin.
Jacques serait dans le Calvados pour Europe 1.
On en vient à la situation en Ukraine. L'est du pays subit une importante offensive de la Russie.
L'armée russe a détruit dans la région de Jytomyr un important stock d'armes fourni par l'Occident. Une frappe ciblée au moment où les États-Unis fournissent une gigantesque aide financière à l'Ukraine, Marion Gauthier.
Oui, pas moins de 40 milliards de dollars, soit environ 38 milliards d'euros débloqués par Joe Biden aujourd'hui. Pour vous donner une idée, c'est près de 19 fois ce qu'a donné l'Union européenne entière depuis le début de la guerre. Une aide donc colossale dont une partie doit permettre à l'Ukraine de s'équiper en véhicules blindés et de renforcer sa défense anti-aérienne. Reconnaissance évidemment exprimée côté ukrainien. Mais le président Zelensky a renouvelé aujourd'hui son appel à l'aide militaire lors d'une conférence de presse cet après-midi devant le Premier ministre portugais. Il a évoqué la paralysie de son pays, ses axes de transport coupés et le risque d'une crise alimentaire mondiale.
Cette crise est inévitable si nous ne débloquons pas les routes ukrainiennes, si nous n'aidons pas les pays d'Europe et d'Asie qui ont besoin de ces produits alimentaires. Vous pouvez les débloquer de différentes manières et l'une d'entre elles est militaire.
Voilà, plus d'armes pour la sécurité alimentaire, plus d'armes pour tenir les positions ukrainiennes. La guerre sera sanglante, la fin diplomatique, a déclaré Volodymyr Zelensky dans une interview à la télévision ukrainienne. Nous voulons que tout revienne comme avant le début de l'invasion russe, poursuit-il, appuyé quelques minutes plus tard par son ministre des Affaires étrangères sur Twitter. Nous n'abandonnerons pas ce qui nous appartient.
Marion Gauthier.
En Australie, et vous allez voir pourquoi ça nous concerne, eh bien en Australie, c'est la fin des conservateurs au pouvoir.
Le Premier ministre ministre conservateur Scott Morrison perd les élections législatives. Le scrutin est remporté par le travailliste Anthony Albanese. Une défaite qui convient très bien à Jean-Yves Le Drian. L'ancien ministre des Affaires étrangères a profité de la passation de pouvoir cet après-midi au Quai d'Orsay avec Catherine Colonna pour lancer une pique au chef du gouvernement australien sortant. Une pique 8 mois après la brouille diplomatique entre Paris et Canberra qui avait fait avorter le méga contrat de sous-marin français.
Et puisque je parle d'Indo-Pacifique, je ne vais pas m'empêcher de dire que la défaite du Premier ministre Morrison me convient très bien. Parce que les actes posés à l'égard de la France, au moment où ils ont été posés, étaient d'une brutalité, d'un cynisme, et je serais même tenté de dire d'une forme d'incompétence notoire. Et ça me fait plaisir de vous le dire ce soir. Et je ne sais pas si il a pensé à la concordance ou la concomitance des dates. Mais s'il y a pensé, c'est bien pour lui. S'il n'y a pas pensé, c'est tant pis pour lui. J'espère que nous pourrons renouer avec l'Australie un dialogue franc et constructif dans l'avenir. En tout cas, je le souhaite, Madame la Ministre.
Jean-Yves Le Drian lors de la passation de pouvoir avec Catherine Colonna.
C'est un, comme on dit, la vengeance est un plat qui se mange froid. Et je pense que c'est une phrase qui restera dans les archives d'Europe 1 et dans les archives de la vie politique.
Un mot de la situation en Allemagne. L'Allemagne balayée hier soir par une tornade dans le nord-ouest. Au moins un mort, 60 blessés. C'est la ville de Paderborn en Rhénanie qui a été fortement impactée. Les dégâts sont considérables. Arbres arrachés, pentes de bâtiments dévastés. Les dégâts donc qui ont été évalués par les autorités locales à plusieurs millions d'euros.
19h12, vous restez avec nous dans un instant. On ouvre la page sportive. On va bien évidemment parler de Roland-Garros qui débute officiellement demain. Roland Garros, Europe 1, radio officielle.
Europe Soir Weekend.
Pierre de Villeneuve. Et la suite du journal avec Sophie Tussaud. On ouvre la page sportive avec le tennis. Début demain du tournoi de Roland Garros, Porte d'Auteuil à Paris.
Un tournoi dont Europe 1 est la radio officielle. Il y avait déjà foule aujourd'hui, Porte d'Auteuil à Paris, Axel May, pour la traditionnelle journée des enfants où de nombreuses animations étaient proposées.
Oui, après 2 années de crise sanitaire, cette journée caritative a fait son grand retour et il y avait effectivement beaucoup de monde dans les allées de Roland-Garros pour assister aux entraînements des stars, pour s'essayer à la terre battue ou encore pour voir des matchs exhibitions comme celui de l'ancien joueur Mansour Bahrami, 66 ans, la moustache toujours bien fournie, qui s'est livré à ses traditionnelles pitreries raquettes en main. Écoutez. Eh oui, on est comme un spectacle avec ces rires de ces jeunes spectateurs qui sont venus avec leurs parents, d'autres grâce à leur club, comme cet élève de 3e à Besançon.
On se lève à 5h, on vient en bus et on arrive vers 11h et après on a champ libre, on a un point de rendez-vous à 19h pour revenir.
Et vous repartez ce soir donc en...
Et on repart vers 20h pour arriver vers 1h ou 2h.
Ah oui, ils sont motivés avec ses copains aussi, ils sont évidemment allés à la chasse aux dédicaces.
Un autographe de Djokovic, un d'un italien et un de celui contre qui Djokovic il a joué.
Moi j'ai eu le DJ Bob Sinclair et j'ai une photo avec Yannick Sinner.
Voilà, Axel May.
Pour cet événement festif et caritatif. Pierre, demain, place au premier coup de raquette. C'est la Tunisienne Ons Jabeur qui aura le droit à la première aux honneurs du cours central face à la Polonaise Magda Linette.
On a failli vous perdre, Axel, mais heureusement qu'on vous a retrouvé. On en parlait en début de journal ce soir, c'est la dernière journée du championnat de France de Ligue 1. Bonsoir Lionel Rousseau.
Bonsoir Pierre. En effet, avec tous les enjeux, on saura qui monte, qui reste en Ligue 1, qui jouera la Ligue des Champions, qui jouera l'Europa League, qui descendra en Ligue 2. Mais on scrutera aussi l'événement principal de cette fin de semaine, de ce week-end sportif, c'est Kylian Mbappé qui reste au Paris Saint-Germain.
Ah oui.
Un certain Kylian Mbappé, ça va devenir le Paris Saint-Kylian ou le Paris Saint-Mbappé, parce que en effet, les dirigeants parisiens ont réussi à arracher le fait qu'il reste dans ce club. Il s'exprimera en direct après la rencontre sur la pelouse du Parc des Princes. Donc nous, on est ensemble jusqu'à minuit. Donc on vous fera entendre qu'il y a les mots de Kylian Mbappé. Mais entre 20h et 21h, avec Jacques Vendroux, avec Philippe Douce et avec Marc Libra, on analyse aussi les raisons de son choix. rester au Paris Saint-Germain et en Ligue 1 la saison prochaine.
Merci Lionel Rousseau.
Oui, et puis il y a du football côté terrain. Là, maintenant, en ce moment, c'est la finale de la Ligue des Champions féminines qui oppose les filles de Barcelone aux Lyonnaises. On est à peu près un quart d'heure de jeu et ce sont les Lyonnaises qui mènent pour le moment 1-0.
Allez, un dernier mot de rugby. Bordeaux-Bègles, première équipe qualifiée pour la phase finale du top 14.
Oui, le club girondin s'assure une place dans les 6 premiers après avoir battu Lyon tout à l'heure, 42-10.
Merci, c'était le journal de Sophie Tussaud. On passe à la météo, Valérie Darmon, la chaleur persiste.
Et oui, les 40 degrés sont frôlés dans le sud de la France avec déjà 37 annoncés à Albi et Cahors, ressentis au soleil beaucoup plus élevé évidemment, approchant 45 degrés. Le vent du sud remonte du Sahara et c'est du centre de l'Aquitaine à Midi-Pyrénées que la chaleur est la plus extrême avec 33 à 36. Localement, par effet de feu, les 37 à 39 qui vont être approchés, record de chaleur absolu pour un mois de mai et peut-être même pour juin. Nous verrons ça demain. Côté ciel, il est de plus en plus voilé, de l'Aquitaine à la Bretagne jusqu'en région parisienne dès le matin. Ailleurs, le bleu résiste, mais en soirée, le temps devient orageux sur les Pyrénées et les Alpes du Nord. En début de nuit, la dégradation orageuse s'intensifiera et gagnera toute la moitié ouest de la France.
Merci Valérie Darmon, 19h17, dans un instant l'interview de Jacques Toubon, qui ne revient pas en politique mais avec un livre. Son livre s'appelle « Je dois vous dire ». Je dois vous dire quoi ? Il va vous le dire. Europe Soir Weekend.